Vous êtes frère de Saint-Jean, à Troussure et auteur du livre La découverte de notre intériorité, retraite à vivre chez soi, aux éditions Des Clés de Brouwer. Alors vous commencez votre livre en citant Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 16. « Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. » Père Geoffroy-Marie de Beaurepaire, nous allons parler d'intériorité. C'est un mot qu'on n'entend pas si souvent. L'intériorité, c'est pas l'intimité, c'est pas non plus se parler à soi-même ou essayer d'entendre une voix qui ne serait pas la nôtre. Qu'est-ce que c'est ?
En effet, c'est extrêmement important de parler d'intériorité, même si le mot n'est pas très courant, parce que on a vu avec le temps du confinement l'arrêt de toutes nos activités d'une manière très brutale. Et les personnes se sont renvoyées eux-mêmes dans une certaine solitude. Et cette épreuve a révélé que finalement, être en dialogue avec soi-même est très éprouvant. Et peut-être que ça a révélé le manque, justement, d'intériorité.
Pourquoi vous diriez que c'est éprouvant d'être seul avec soi-même ?
Que facilement l'homme fuit à soi-même. L'homme n'ose pas se regarder. Il est facilement dans l'activisme, dans le bruit, dans l'agitation, et tout cela peut être intéressant. Mais finalement, descendre au fond de soi-même fait peur. Qui on est ? Quel est le sens à notre vie ? Ce sont des questions un peu métaphysiques que finalement on veut mettre de côté. Et je crois que l'enjeu, c'est de comprendre que notre société actuelle peut-être met très en lumière l'activisme et peu la vie intérieure. Je voudrais citer quelques penseurs, quelques philosophes qui montrent l'urgence de regarder l'intériorité. D'abord Blaise Pascal. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer plus d'une heure au repos dans une chambre. Le grand Bernanos disait « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » Cette conspiration a rendu l'homme extérieur à lui-même, et dès qu'un malheur extérieur l'assaille, il croit que c'est fichu. Il faut apprendre à affronter notre faiblesse intérieure. Vous voyez, je crois que ce terme de Bernanos est très fort, une conspiration universelle à la vie intérieure. Ça, c'était dans les années 1930-40. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Encore une citation. Antoine de Saint-Exupéry disait « La vie intérieure est difficile à dire. Il y a une sorte de pudeur. Mais c'est la seule chose qui compte pour moi, ça modifie toutes les valeurs, même dans les jugements sur les autres. » Une dernière citation de Jung, ce psychiatre en 1955 qui n'est pas chrétien, et voilà ce qu'il dit. « La civilisation chrétienne s'est révélée creuse, à un degré terrifiant, et n'est plus qu'un vernis extérieur, car l'homme intérieur est resté à l'écart et par conséquent inchangé. » C'est ce dont nous avons le plus besoin, c'est le développement de l'homme intérieur spirituel, de l'individu, dont le trésor est caché au fond de lui-même.
Geoffroy-Marie de Beaurepaire, dans les citations que vous avez choisies, on entend bien la difficulté à résister aux assauts du monde. Est-ce que c'est si dangereux d'être happé par le bruit de la société, l'agitation, mais qui nous plaît, qui nous attire aussi ?
Alors, loin de moi de montrer que la société est mauvaise. Non, la société, elle est bonne comme telle. Et on voit avec tous les développements de la technologie combien il peut y avoir de très bonnes choses, c'est évident. Mais c'est peut-être le paradoxe qu'il y a une pathologie peut-être du XXe siècle, c'est que l'homme est blessé dans son être profond. Il attend tout de l'extérieur.
Alors, il est blessé dans son être profond. Qu'est-ce que ça veut dire, être blessé dans son être profond ?
C'est-à-dire que l'homme cherche au fond de lui-même le sens de sa vie, ce pourquoi il est fait. Et dans un climat chrétien, il se tourne naturellement vers Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce climat chrétien. Et donc, l'homme cherche qui il est. Qui est l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? C'est la grande question de la pensée moderne et de la pensée postmoderne. Et là, il y a des points d'interrogation, il y a un peu un vide. La société nous pousse beaucoup à l'extériorité de nous-mêmes, au bruit, au mouvement, à l'agitation. Et donc, l'homme semble un peu perdu. Et donc, il y a tout un chemin à découvrir sur ce que représente une véritable intériorité.
Père Geoffroy, Marie de Boreux de Père, avec vous, on cherche à comprendre ce qu'est l'intériorité et on vous entendait de parler les grands auteurs que vous citiez, ceux du 17e, du 20e siècle, que l'intériorité, elle est définie aussi par l'extériorité. Mais si on doit pouvoir définir vraiment ce qu'est l'intériorité, c'est sûrement assez difficile. Mais la vie intérieure, comment est-ce que vous la définiriez, vous ?
Alors, l'intériorité, c'est un peu un espace mystérieux qui touche le domaine de l'intime, du personnel, du secret, et aussi de la vérité profonde de l'être. Et Comte Sponsville, le philosophe, disait « c'est un murmure confus du bruit de nos âmes ». L'intériorité est difficile à définir précisément, mais comme philosophe, je pourrais peut-être distinguer quatre niveaux de l'intériorité. Il y a d'abord l'intériorité psychique qu'on connaît bien, c'est notre sensibilité, c'est notre vie affective, nos émotions, c'est notre imaginaire, c'est notre mémoire. C'est tout ce vécu inconscient qui est en nous et qui peut remonter à la conscience. C'est une sorte de magma qui est ni bon ni mauvais, il est ainsi. Deuxième niveau, une intériorité spirituelle au sens humain du terme, c'est le sens du bien, le sens du vrai, le sens du beau. C'est quelque chose de naturel en nous. L'homme a un esprit, il est tourné vers cette qualité. Je pense au bouddhisme qui ont l'art justement d'intérioriser, de creuser cette vie intérieure dans leur sagesse propre.
Donc ces deux points-là sont communs, on pourrait dire,
à tout homme,
à toute religion.
Exactement. Troisième niveau, l'intériorité religieuse, commun aussi à tout homme. L'homme est naturellement fait pour le transcendant. Il est fait pour quelque chose qui le dépasse. Mais qui est ce transcendant ? Dans l'histoire des religions, on voit qu'il y a beaucoup de types de religions et de transcendance. Bien sûr, il y a l'islam, il y a le judaïsme, il y a l'hindouisme. Et on voit qu'ils ont le sens du sacré. L'homme intérieur se façonne par le sacré, par ce monde du divin. Enfin, un quatrième niveau qui est propre aux chrétiens, l'intériorité de la grâce chrétienne. Par le baptême, nous recevons cette vie divine de la Sainte Trinité en nous. Le Christ habite en nous et dans cette habitation, le Christ veut rentrer dans une vie personnelle, dans une intériorité au plus profond de notre âme. Et voilà l'originalité de l'intériorité chrétienne, c'est de rentrer dans la présence de Dieu qui veut s'infiltrer au plus profond de nous-mêmes. C'est une rencontre.
L'intériorité, elle est évoquée aussi dans le Nouveau Testament. Comment est-ce qu'elle est expliquée ?
En fait, l'intériorité dans le Nouveau Testament, c'est d'abord celle de Christ. Le Christ veut communiquer à l'homme son intériorité. Et l'intériorité de Jésus, c'est qu'il est le Fils bien-aimé du Père. Il est venu apporter l'Esprit. Et donc, le Christ veut nous faire participer à cette vie trinitaire. Je cite dans l'Évangile de Jean, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons une demeure chez lui. » La clé, elle est là, c'est de demeurer dans la Sainte Trinité. Notre intériorité est complètement renouvelée, au-delà de l'intériorité religieuse, spirituelle ou psychologique. Elle veut assumer tout cela pour entrer dans la vie intérieure même de Dieu, si j'ose dire. Et ça, c'est une révolution, parce qu'aucune religion osait dire qu'on pouvait participer à la vie de Dieu. D'où l'injonction de Saint Paul, « Fortifiez en vous l'homme intérieur ». Fortifiez parce que tout est là, que ce mystère trinitaire puisse saisir toute la personne. Et Saint Jean, dans son évangile, a cette expression très forte de « demeurer dans mon amour ». Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Qui écoute ma parole demeure en moi. Dans les écrits johanniques, il y a 67 fois le mot « demeurer ». Et je pense que c'est une piste très forte pour rentrer dans sa vie intérieure. C'est d'apprendre à demeurer avec celui qui nous habite.
Geoffroy-Marie de Beaurepaire, vous dites l'intérieur de l'homme se façonne par le sacré. Alors comment expliquer que tant de gens parfois le cherchent, tant de gens parfois cherchent Dieu, semblent ne pas le trouver ou tant d'autres trouvent un épanouissement par ailleurs ?
Très bonne question. Lorsque le sacré disparaît, quand le religieux disparaît, eh bien c'est l'idolâtrie. On voit ça dans la Bible et il y a 1000 idoles aujourd'hui, l'idolâtrie de l'argent, du confort, de la consommation, même si tout cela est bon comme tel, mais quand on en fait un absolu, ça devient une idole. Finalement, donc l'homme se coupe du transcendant et se replie sur lui-même. D'où cette quête infinie au bonheur qui est toujours un peu déçu. On était persuadé dans les années 2000 avec tout l'avènement de la modernité que l'homme serait heureux, et on voit que c'est pas forcément le cas. Et donc là, il y a une blessure, qu'on enlève le sacré, on enlève une partie de la transcendance que recherche l'homme au plus profond de lui-même, sans forcément le savoir. Et une des paroles les plus bouleversantes de l'Évangile est celle peut-être du Christ, Saint Luc, chapitre 17, verset 21. « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Il n'est plus dans le temple, il n'est plus dans le Saint des Saints, il est au plus profond du cœur de l'homme.
Le silence est difficile à trouver, mais le cherche-t-on vraiment? Et pourquoi se retrouver à vivre un moment vertigineux où nous ne sommes plus au dehors, mais en dedans? Et c'est ce silence, cette soif de Dieu dont vous êtes venu nous parler, Père Geoffroy-Marie de Beaurepaire. La soif du divin, c'est pas réservé à certaines personnes, alors pourquoi c'est si difficile?
Madeleine Delbrel, au XXe siècle, en région parisienne, disait « Si tu parcours le monde, tu trouveras les traces de Dieu ». Si tu vas au fond de toi-même, tu trouveras Dieu lui-même. Pourquoi est-ce si difficile de rencontrer Dieu? Sainte Élisabeth de la Trinité, cette carmélite près de Dijon, au début du XXe siècle, disait « J'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel, c'est Dieu, et Dieu, c'est mon âme. » Nous avons, à travers ces deux citations, cette révélation bouleversante que Dieu est au plus profond de nous-mêmes. Mais alors, si c'est vrai, combien d'hommes cherchent Dieu sans le trouver véritablement? Et c'est une certaine angoisse, une culpabilisation. Pourquoi certains rencontrent Dieu et pas d'autres? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une vraie question. Et c'est peut-être là où il faut voir que notre vie intérieure, elle est blessée. Elle a du mal à trouver Dieu parce que, j'oserais dire, dans sa structure profonde, eh bien, l'homme, il n'y peut rien, est blessé, j'ose dire, par les conséquences du péché originel. C'est un dogme profond dans l'Église qui donne une lumière que l'homme est créé à l'image de Dieu, il est fait pour Dieu, mais en raison de cette fracture profonde, eh bien, l'homme a beaucoup de mal à unir ces quatre niveaux d'intériorité que j'ai cités. La première intériorité psychologique, finalement, prend le dessus sur la vie spirituelle, sur la vie religieuse et sur la vie chrétienne. Mes émotions, mes passions, mes blessures, mon imaginaire, en fait, m'enveloppe comme un brouillard et j'ai du mal à voir ce pourquoi profondément je suis fait. Et cela a pour conséquence, et dans les premiers épîtres de Saint Jean, au chapitre 2, il parle des trois concupiscences qui se trouvent en nous, trois grandes attractions qui touchent le corps, l'âme et l'esprit. Ce qui touche le corps, c'est la concupiscence de la chair. On veut combler notre bonheur par l'avoir et non plus par l'être, la possession. Et on croit que notre intériorité, c'est d'abord posséder. Notre bonheur, ça serait posséder. Au niveau de l'âme, concupiscence des yeux, c'est le paraître. On veut donner une certaine image de soi, mais on n'est pas dans le vrai. Et enfin, l'esprit, c'est ces dimensions de l'orgueil qui s'expriment par le pouvoir. Et on cherche plus l'amour, mais la domination. À travers ces trois concupiscences qui sont en nous avec des degrés différents, on voit que on préfère l'avoir que l'être, on préfère le paraître que le vrai, le pouvoir que l'amour. Et donc, notre âme, elle est blessée. Notre vie intérieure, elle est blessée structurellement et ça prend des couleurs très différentes selon l'éducation des gens, selon le chemin de chacun.
Mais alors, attendez, vous semblez dire que finalement, posséder, paraître, ça vient un peu à l'encontre de la rencontre avec Dieu?
Ça vient exactement à l'encontre de nous-mêmes. On a du mal dans la connaissance de soi. On veut se donner une certaine image de ce que l'on est. J'appelle ça, moi, une représentation de soi où on a du mal à être en connexion avec ce que l'on est vraiment. Et je crois qu'il faut une vie pour passer de la représentation de soi à ce que l'on est. Je prendrai l'image du carré, du triangle et du rond. on croit être un carré, les autres nous montrent que on est un triangle, et en fait, je suis réellement un rond. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à unifier ce que je suis vraiment avec la représentation que je suis ou ce que les autres me donnent. Et donc, il faut toute une vie pour avoir une certaine autonomie, une certaine intériorité pour découvrir qui on est.
Et pour vous, ça, ce n'est pas un travail psychologique ?
Si, ça passe par la psychologie, c'est essentiel, et voilà pourquoi on a besoin, quand on a une difficulté de trouver un équilibre, d'un bon psychothérapeute, d'un psychologue, ou quelquefois d'un psychanalyste, pour arriver à réunifier notre personne. On appelle ça fortifier son moi. Et c'est un passage extrêmement important. Alors, on n'est jamais dans un plein équilibre, mais on peut s'améliorer. Et l'enjeu, c'est de pouvoir découvrir mais qui on est, quelle est notre personne.
Est-ce que vous semblez dire que finalement, pour parvenir à découvrir Dieu, il faudrait déjà qu'on essaie de se découvrir soi-même et que cette agitation dans laquelle on est un peu happé, l'agitation quotidienne, elle nous empêche d'aller vers nous. Et c'est aussi pour cela que beaucoup ne parviennent pas à aller vers Dieu, parce que déjà, ils ne vont pas vers eux.
Eh bien, ce que vous dites est très juste, et on voit ça dans l'amour, dans un couple. Pour aimer l'autre, j'ai besoin de pouvoir être vraiment moi-même. Sinon, je vais rester en fusion avec l'autre, ou l'autre va me dominer. Je me mettrai entre parenthèses. Et finalement, c'est le prix de l'amour, c'est une qualité de rencontre. De rencontre entre l'autre et moi-même. Eh bien, dans notre foi en Dieu, c'est la rencontre entre la personne de Christ et notre personne. Donc, tout l'enjeu, c'est de pouvoir devenir une personne pour aller à la rencontre de la personne de Dieu.
Geoffroy-Marie de Beaurepaire, vous évoquiez la rencontre de soi-même qui peut nous permettre d'aller à la rencontre du prochain.
Le fondateur de la philosophie, Socrate, disait « Connais-toi toi-même ». Et les pères de l'Église ont beaucoup réfléchi sur cette question « Faut-il se connaître soi-même ? Faut-il s'aimer ?» Et c'est quand même très frappant de voir que presque tous ont dit « Non, il est dangereux de se regarder soi-même parce que l'amour de soi peut glisser vers le narcissisme, vers l'égocentrisme. »
Mais alors comment faire la différence entre l'amour de soi qui serait égocentrique et l'autre qui serait authentique ?
Deux grands théologiens, saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, ont tapé du poing sur la table, si j'ose dire, ils ont dit « Si, la connaissance de soi est essentielle. » Pas de vie chrétienne sans se connaître soi-même, parce que c'est une relation, c'est une rencontre. Et se connaître pour mieux s'aimer. Alors comprenons bien, s'aimer, ce n'est pas le narcissisme. S'aimer, c'est s'accueillir, se recevoir en vérité tel que l'on est. C'est pouvoir, à travers le miroir du visage de l'autre, mieux découvrir qui on est. Et plus je suis ce que je suis, plus je pourrai aussi aller à la rencontre de l'autre. Donc l'amour de soi et la confiance en soi est une des grandes clés. Tous les psychologues montrent aujourd'hui qu'il y a à peu près 2 personnes sur 3 qui n'ont pas confiance en elles. Et là, c'est une grosse blessure. Et tout l'enjeu de l'éducation ou de l'auto-éducation, c'est arriver progressivement à découvrir notre personne. Et la confiance vient à travers ce que je fais et à travers aussi le regard de l'autre. Donc, c'est tout un chemin.
Est-ce que vous diriez que finalement, on ne sait pas regarder l'autre ?
Très juste. Et Lévinas, le philosophe, serait heureux de votre question. Il est difficile de regarder l'autre. Dans une écoute gratuite, profonde, arriver à sortir de soi pour accueillir l'autre tel qu'il est. C'est la chose la plus difficile. Parce que pour sortir de soi, il faut être très ancré en soi. plus je suis ancré en moi-même, plus j'ai une confiance en moi-même, plus je pourrai vivre l'altérité. Ce qui blesse l'altérité, c'est la fusion ou c'est la dialectique. Mmh. Et donc, être aveugle sur soi-même, c'est empêcher d'accueillir l'autre. Et finalement, toutes les épreuves, toutes les blessures dans l'amour, entre amis ou dans la vie conjugale, 9 fois sur 10, ce sont des problèmes d'abord d'identité. J'accompagne beaucoup de fiancés, beaucoup de couples, et je peux vous le dire, 80%, si j'ose dire, des problèmes conjugaux viennent d'abord des problèmes d'identité de la personne. Et l'autre est le révélateur de mes problèmes.
Alors dans votre livre, justement, vous citez Aristote dans son livre Éthique à Nicomaque, au 4e siècle avant Jésus-Christ, où il dit « Le plus grand bonheur, hormis la contemplation de Dieu, c'est d'avoir un ami ».
Oui.
C'est à ce point important.
Eh ben, c'est l'expérience que l'on voit, les petits garçons, les petites filles de 5-8 ans, ils aiment avoir des petits amis. Les vieillards, ce qu'ils ont besoin, c'est des soins pour leur corps, mais c'est aussi une relation sociale. Et entre les deux, on voit que la solitude est très difficile et que finalement, être en relation avec quelqu'un, eh bien, est source d'une paix et source d'un grand bonheur. Maintenant, autre chose est de qu'est-ce qu'un véritable ami ? L'amitié implique la réciprocité, ce qui n'est pas forcément évident. L'amitié implique une certaine gratuité, implique une sortie de soi. C'est tout un travail. Alors, on a des relations, on a des copinages. Aristote essaie de définir qu'est-ce que c'est que l'amitié. Mais l'amitié est rare, finalement. Mmh. C'est très rare, même au sein d'un couple. On peut pas forcément être les meilleurs amis.
Et puis, finalement, accueillir à l'autre sans s'effacer.
Exactement. Exactement. Donc, c'est tout un jeu à la fois psychologique et spirituel. Et on voit que c'est tout un travail de l'homme. On devient homme, on devient une personne. Et c'est ce qui est le plus passionnant sur cette terre.
Rester seul avec soi-même peut-il nous libérer ou au contraire nous emmener vers un repli ? Père Geoffroy de Beaurepaire, il faut sûrement du temps pour comprendre que tout dépend de ce que l'on fait de ce moment. Cultiver l'intériorité, vouloir se retrouver avec soi-même, prendre du temps à l'écart, être seul avec sa bougie, partir en retraite, est-ce que ça risque de nous enfermer sur nous-mêmes ?
Oui, mais il faut bien comprendre qu'une véritable intériorité, de manière paradoxale, nous ouvre à l'extériorité. Je crois que c'est deux phases d'une même réalité. L'extérieur m'enrichit par mes sens, mes cinq sens m'ouvrent à l'extériorité pour nourrir mon intériorité. Et une véritable intériorité va me propulser vers l'autre. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin radicalement de l'autre. L'enfant a besoin de sa mère, de son père. L'adulte a besoin d'avoir une dimension sociale. Et j'aime beaucoup cette phrase « Deviens ce que tu es et tu mettras le feu sur la terre. » Deviens ce que tu as reçu
de Catherine de Sienne.
De Catherine de Sienne. Deviens ce que tu as reçu par le baptême et tu mettras le feu. Le propre de l'homme, c'est devenir lui-même pour justement aller à la rencontre de l'autre. Donc dans l'ordre psychologique, c'est opposé. Soit c'est ma vie intérieure ou soit c'est je suis vers l'extériorité. Il y a en nous, pour reprendre ce que disait Jésus, une Marthe, une Marie. Mais au-delà de l'opposition, je crois que c'est deux faces pour unir profondément notre personne. J'ai besoin de l'autre et pour aller vers l'autre, j'ai besoin d'être pleinement moi-même. Et donc il faut une vie pour découvrir ce chemin d'intériorité et d'extériorité qui s'enrichissent mutuellement.
Oui, parce qu'en début d'émission, on évoquait le fait que l'extérieur, c'est aussi l'agitation, c'est aussi un petit peu se perdre soi-même, s'étourdir et parfois un petit peu perdre pied. Il y a aussi un extérieur, évidemment, qui est salutaire, qui est celui de la rencontre, qui est celui qui va nous révéler aussi. Comment est-ce qu'on peut distinguer quelque part ce qui va nous porter vers le haut ou ce qui, au contraire, va peut-être parfois nous enfermer, nous emmener pas vraiment là où on voudrait aller ?
Il me semble que ce qui caractérise la postmodernité, c'est d'être mis dans le mouvement, dans le bruit, dans l'accélération du temps. Et on voit qu'il peut y avoir un certain épuisement de l'homme. L'espace et le temps sont complètement transformés. Et un des signes, c'est qu'on a beaucoup de mal à accueillir le silence. Pourquoi il y a de la musique partout? La radio, c'est différent. C'est fait pour cela. Mais pourquoi c'est si difficile de faire silence au plus profond de soi-même? Et je le vois, prêchant beaucoup de retraites en silence, combien c'est difficile pour les personnes. Je voudrais citer le pape Benoît XVI. Le silence est l'ennemi juré de l'homme, communicant. Et pourtant, le silence est nécessaire pour établir une véritable communication.
Père Jouffroy, Marie de Beaurepaire, par rapport à votre propre expérience, vous vivez en communauté. Vous-même, vous avez dû apprendre ce temps de silence, vous avez dû apprendre à être seul, avec le seul, comme disait sainte Thérèse d'Avila. Comment ça s'est fait? Est-ce que encore aujourd'hui, c'est un apprentissage? Parce que ce n'est jamais acquis?
C'est exactement ça. C'est jamais acquis. Et j'ai appris dans mon noviciat, justement, à rentrer dans cette intériorité, d'être porteur du Christ, de rentrer dans la vie du Christ. Et en même temps, j'ai appris par la charité fraternelle que pour le plus court chemin pour aller vers le Christ, c'était de passer par mon prochain. Et là est le problème. On s'arrange bien avec Dieu tous les deux. Mais le réalisme du prochain est beaucoup plus difficile. C'est facile de dire « je t'aime Seigneur ». Autre chose est d'aimer son prochain. Et donc c'est le propre de la vie chrétienne, c'est que c'est non négociable. Je ne peux pas aller vers Dieu sans mettre entre parenthèses mon prochain.
On est toujours rattrapé en fait par le
réalisme.
Et heureusement.
Exactement. Alors soit je me fonds dans le prochain et ça m'empêche d'aller vers Dieu, ou soit au contraire, je peux voir mon prochain dans la lumière de Dieu et l'accueillir tel qu'il est.
Alors, vous disiez d'aller porter le feu au monde. Est-ce que ça veut dire que ce que l'on peut puiser dans la prière, c'est ce qui va nous permettre de encore mieux vivre le monde extérieur?
Oui.
Ou de le vivre différemment?
Moi, je dirais le vivre différemment. Le monde extérieur, il est ce qu'il est. On doit accueillir notre société. Je devrais dire même, on doit l'aimer profondément. Il ne s'agit pas d'être en dehors du monde, mais sans être du monde. Comme dit le Christ, sans être du monde, c'est-à-dire avoir une vie intérieure suffisamment forte, qu'on soit dans le métro, qu'on soit à droite ou à gauche, qu'on soit dans le bruit, avoir une vie intérieure pour lire au second degré ce qui m'entoure, pour vivre autre chose, pour voir autrement les réalités. Et c'est, je crois, le chemin du bonheur et de la paix. C'est de pas vivre en surface, mais d'être en profondeur. De même qu'il y a des vagues qui s'agitent en surface, mais il y a la lame de fond en profondeur qui est dans la paix. Et dans notre monde si secoué, au cœur de beaucoup de crises, combien on a besoin de paix, d'intériorité pour porter les choses autrement.
Alors, parmi nos auditeurs, il y a aussi des gens seuls pour qui la solitude est un poids épuisant, qui voudraient justement bien aller s'étourdir dans le monde extérieur. Ce n'est pas le cas. Est-ce que là encore, il y a une autre façon de pouvoir vivre sa solitude et de la transformer en non pas une souffrance, mais quelque chose qui serait alors différent? Est-ce que c'est vraiment possible?
La solitude est un phénomène très moderne. Jamais il y a eu autant de célibataires. Jamais il y a eu autant de personnes qui sont livrées elles-mêmes. Et la solitude, pour beaucoup, est synonyme d'isolement, de repli sur soi, d'incompréhension, de rupture de lien. Et comme prêtre, j'accompagne un certain nombre de personnes et je vois que cette solitude est comme un ver rongeur. On n'est pas fait pour être seul. Comme dit la Genèse, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul.
Thank you.
On évoquait la solitude. J'aimerais qu'on revienne sur ce terme-là parce que la solitude peut être vécue très très mal. Comment la transformer en un moment qui pourrait être autre chose ?
Il s'agit peut-être de comprendre qu'il y a deux mouvements dans la solitude. Il y a une solitude d'abord qui est positive. Dieu a créé Adam seul. Et cette solitude, elle était d'une certaine manière bonne. Nous sommes au monde et nous serons toujours seuls, même dans l'amour. À tout moment, nous sommes seuls. La souffrance est toujours portée d'une manière très personnelle.
Là, vous citez la Genèse, mais pourtant, dans la Genèse, il est écrit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul.
Oui, tout à fait. Mais en même temps, Adam reste seul, Ève reste seule. Ça, c'est la première facette. Et si on accueille cette solitude, j'oserais dire métaphysique, au niveau de mon identité, eh bien, je pourrais me tourner vers l'autre, vers la communion. Parce que je suis fait aussi pour être en relation avec l'autre.
Qu'est-ce que c'est la communion ? C'est quoi la différence avec la fusion ?
La fusion, c'est avec l'autre. Perdre son identité pour ne faire qu'un avec l'autre. Et c'est un désir très profond. Le désir des couples qui veulent s'unir dans les corps et qui veulent ne faire qu'un. Mais il reste deux corps, il reste deux personnes. Et donc la fusion, elle peut être psychologique, elle peut être intentionnelle. Mais en fait, l'altérité est là. On peut jamais être pleinement dans l'autre. Et donc, alors que la communion, c'est dans l'altérité. Je peux rencontrer l'autre et on est soi-même. Finalement, pour comprendre tout ça, est-ce qu'il ne faut pas regarder la Sainte Trinité ? Si l'homme est créé à l'image de Dieu Trine, eh bien, l'homme dit quelque chose du mystère trinitaire. La Trinité, c'est trois identités différentes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont complètement séparés. Il y a une identité plénière. Il y a une solitude chez le Père, chez le Fils et chez Saint-Esprit. Et en même temps, ces trois solitudes pleinement assumées leur permet d'être totalement en relation. Le Père est totalement source du Fils. Il engendre le Fils à tout moment. Le Fils est totalement engendré par le Père et de même dans l'Esprit Saint.
Et alors comment ça peut se traduire pour nous ?
Eh bien pour nous, c'est d'arriver à comprendre que plus je serai ancré en moi-même, plus je pourrai paradoxalement m'ouvrir à l'altérité, à l'autre, dans une communion spirituelle d'amour très puissante. Et plus je serai dans une communion, cette communion va nourrir mon identité. Finalement, il y a une synergie entre les deux. Et il faut beaucoup de temps pour arriver à cette unification de la personne. Et je crois que c'est tout l'enjeu d'une vie, c'est de construire cette intériorité dans l'altérité et dans le mystère de la communion.
Que dire du silence entre deux personnes ?
Alors, il y a des silences négatifs, mortifères. Il y a des silences, au contraire, amoureux, qui donnent une présence, une qualité de présence à l'autre.
Il y a des silences hésitants aussi, des silences où on ne sait pas s'il faut dire ou pas. Faut-il tout dire ?
Le silence est porteur d'une présence. Et il est bon de rester dans des temps de silence. Ça invite à l'intériorité, ça invite à recevoir l'autre. Il est bon aussi d'avoir une parole féconde. J'aime cette citation de Jean de la Croix. Le Père n'a dit qu'une parole, le Verbe éternel. Le Père engendre le Christ comme parole dans un silence éternel. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un monde de communication, on en parle beaucoup, beaucoup. Plus on aura un silence intérieur, plus on aura une intériorité forte, plus notre parole sera adéquate, sera mesurée, sera porteur de présence. On voit ça dans l'amour. Quand l'autre est dans une communion profonde, on aime le silence.
Nos faiblesses nous encombrent, mais elles font partie de nos vies, de nos hontes et parfois même de l'orgueil qui nous empêche d'accéder à Dieu. Père Geoffroy-Marie de Beaurepaire, vous vous arrêtez sur la place du prochain et de Dieu pour envisager comment surmonter ces jugements parfois durs que nous portons aussi sur nous-mêmes. Se juger soi-même, ça arrive peut-être un peu trop souvent.
On se culpabilise souvent, ou au contraire, on se défend surtout, et on a du mal d'être en paix avec nous-mêmes. Et c'est là où, progressivement, il faut découvrir qu'on est des malades. On est fragile. Et c'est le Christ qui dit avec beaucoup de force, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est peut-être l'enjeu, c'est de découvrir que mon identité, mon chemin de bonheur, eh bien, il est fragile, il est pauvre. Et j'ai peut-être à me tourner vers le transcendant, et pour ceux qui sont chrétiens, à se tourner vers le Christ, pour dire « Seigneur, sauve-moi ». Jésus est le Messie, il est le sauveur de nos âmes, de nos vies intérieures. Et tout l'enjeu, c'est de dire que j'ai besoin du Christ.
Mais personne n'a envie de dire qu'il est malade.
Eh bien, c'est ça le problème. C'est ça le problème, et justement, toute notre vie, c'est de faire le canard. C'est-à-dire, on est au-dessus de l'eau, et on avance, mais sous l'eau, eh bien, avec ses pattes, il pédale. Et nous jouons une comédie, nous jouons un personnage, et c'est très fatigant. Et un jour ou l'autre, le puzzle craque. C'est à 30 ans, 40 ans, 50 ans, eh bien, notre identité n'est plus unifiée, et on ne sait plus très bien le sens de notre vie et notre bonheur.
Mais alors, comment parvenir à découvrir ce sens-là ? Est-ce qu'il faut aller justement jusqu'au burn-out, jusqu'à la crise de la quarantaine ? Comment est-ce qu'on peut prendre conscience bien avant pour retrouver le Christ ? Comment faire ?
Il y a deux approches. C'est dans la lumière de notre entretien, c'est justement prendre au sérieux notre vie intérieure et la travailler.
Vous pensez qu'on prend ça comme insignifiant, la vie intérieure ?
Ah oui. On la met très facilement de côté. Parce qu'encore une fois, on a peur de soi, on veut éviter les questions un peu métaphysiques, profondes, sur notre bonheur. On peut être très secoué par la vie et on peut baisser les bras, on ne sait plus qui on est. Un deuxième moyen pour se poser la question, ce sont les événements. Et quelquefois des événements douloureux, malheureusement, un deuil ou un échec profond, ou différentes choses qui font que je suis secoué. Et à ce moment-là, eh bien, je suis obligé de me poser les vraies questions. Celui qui rentre en prison, d'un seul coup, il est face à lui-même. Et la prison est une grosse épreuve pour ça. Mais il y a des prisons physiques, il y a aussi d'autres prisons intérieures. Et j'aimerais vous parler de cette parabole du Christ sur le fils prodigue. C'est très intéressant parce que on la connaît par cœur. Il fait les cas de son cou avec l'héritage de son père. Et il a fallu qu'il soit au bord du précipice, ayant faim, pour se dire en lui-même, et cette expression est très forte, il rentra en lui-même et il découvrit qu'il avait un père. Trois étapes dans ce chemin du fils prodigue. D'abord, ce retour intérieur, il rentra en lui-même. C'est dans Saint-Luc, chapitre 15, verset 17. Deuxième étape, il se reconnaît pécheur. Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Se reconnaître pécheur. Troisième étape, il va vers le Père, il rencontre le Père, et nous connaissons la suite, c'est le festin. Vous voyez, ces trois étapes montrent qu'il y a un cheminement, il y a un pèlerinage. Et on voit ça dans tout l'Ancien Testament, où Israël doit se reconnaître pécheur pour rentrer dans la terre promise. Nous devons nous reconnaître avec nos fragilités, nos fautes, nos limites, pour recevoir la miséricorde de Dieu. C'est un chemin d'humilité qui nous permet de toucher la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu est le miséricordieux et il veut faire toute chose nouvelle en nous. Dieu cherche des pécheurs pour leur pardonner et pour faire toute chose nouvelle dans leur cœur.
Père Geoffroy-Marie de Beaurepaire, c'est un chemin d'humilité, mais c'est aussi un chemin de foi. Ça veut dire qu'on croit vraiment que le Christ peut venir là où on est mauvais.
Alors, chacun fait ce qu'il peut. Et ceux qui n'ont pas la foi vont chercher par différents moyens pouvoir s'accrocher, j'oserais dire, à des branches ou à un sens de la vie. Et ils peuvent aller déjà loin. Pour ceux qui ont la foi, qui essayent d'avoir la foi, c'est une chance d'avoir un Dieu qui s'est fait homme et qui nous dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu es, comme dans le Cantique des Cantiques, tu es noir, noir de ton péché, mais tu es belle, parce que je veux y déverser mon amour. » Donc l'enjeu, c'est un combat contre l'orgueil. Est-ce que je veux me débrouiller seul, construire ma tour d'ivoire, finalement être Dieu, ou bien laisser Dieu être Dieu pour m'entraîner dans un chemin de miséricorde ? C'est tout le grand pèlerinage de Saint-Pierre, qui voulait montrer toute sa générosité au Christ. Et en fait, le Christ lui a montré que finalement, il a trahi le Jeudi Saint. Finalement, il a laissé tomber. Et que par son péché, par ses fragilités, le Seigneur lui a redonné toute sa confiance, parce que Pierre a dit « Mais oui, tu sais bien que je t'aime, Jésus, mais je suis un pauvre. » Et puisqu'il a accepté d'être pauvre et d'être malade, Jésus lui a donné toute l'autorité.
Père Geoffroy-Marie de Beaurepaire, dans votre livre sur l'intériorité, vous revenez sur cet homme qui est Charles de Foucault et qui, au désert, va faire un vrai chemin sur sa vie intérieure.
Charles est un homme très généreux. Quand il avait 20 ans, c'était dans le divertissement. Quand le Christ est venu le rencontrer, cette générosité s'est propulsée vers Dieu d'une manière fulgurante. Il est devenu le moine, le grand ascète, l'homme de Dieu par excellence. Mais c'était encore lui. Aimer, c'est se donner. Il s'est donné selon son idée, selon sa mesure. Et Dieu a continué à le façonner pour que progressivement il découvre que aimer, c'est se laisser aimer. Se laisser aimer par les Touaregs qui le voyaient malade et qui ont pu s'approcher de lui. C'était l'homme, le starète, c'était le saint qui ne se laissait pas approcher. Et d'une manière paradoxale, eh bien, il a permis à son prochain de pouvoir l'aider. Ce chemin de Charles est assez bouleversant et je crois qu'il a touché de près ce que c'est que la miséricorde. La miséricorde, c'est d'aimer la misère de l'autre, enfin plutôt d'aimer l'autre à travers sa misère, mais c'est aussi se laisser aimer dans ses pauvretés, dans sa misère. Les Touaregs ont pu toucher ses blessures et il a découvert qu'à travers ces trois règles, c'était la présence même de Dieu.
Est-ce qu'on peut dire que ça a mis fin à ses insatisfactions ?
Exactement. Exactement. Il est rentré en paix, il est rentré dans ce qu'on appelle la charité profonde. Et j'aime beaucoup ce que disait Jean-Paul II, le nouveau nom de l'amour, c'est l'amour miséricordieux. Une chose est d'aimer, autre chose est de se laisser aimer dans notre propre fragilité. On a un orgueil en nous, on ne veut pas se laisser aimer dans nos pauvretés. On voit ça dans la vie conjugale, on voit ça dans la vie parentale. Un enfant qui ne veut pas se laisser aimer dans sa fragilité, il empêche l'amour. Un conjoint qui ne veut pas se laisser aimer dans ses pauvretés, il empêche l'amour. Vous voyez, l'amour miséricordieux nécessite d'accueillir l'autre. Voilà pourquoi c'est le seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est de ne pas accepter la miséricorde. Donc là, on touche quelque chose de très puissant. Un des plus grands fruits de l'intériorité, c'est de pouvoir se reconnaître pauvre, fragile, pour se laisser aimer par l'autre.
Est-ce que vous diriez que le premier pardon, il est à accorder à soi-même ?
Magnifique. C'est très beau. Vous avez mille fois raison. Arrêtez de se prendre trop au sérieux et prendre au sérieux le regard de Dieu sur nous. Là est l'enjeu et c'est le combat contre l'orgueil profond. Ce qui blesse le plus notre intériorité, finalement, c'est notre orgueil. Je veux par moi-même y arriver. Je veux par moi-même mesurer les choses. Et le propre de l'amour, c'est de donner la possibilité à l'autre de venir dans notre intériorité pour cheminer avec nous.
Vous faites un rapprochement avec la compassion ?
Oui.
Pour l'autre ?
Oui. Mère Teresa a entendu ce cri dans une gare d'un homme qui avait soif. « J'ai soif ». Et par l'intériorité profonde de Mère Teresa dans la vie de l'Esprit Saint, elle a entendu le Christ dire « J'ai soif ». C'était le point de départ de sa vocation, de sa seconde vocation, pour quitter son couvent et aller dans la rue, s'occuper des plus pauvres. La compassion, c'est quoi ? C'est de voir l'autre qui m'est donné par le Christ. de voir l'autre qui m'est donné comme mon prochain, me faire proche de l'autre dans ses qualités, dans ses beautés, mais aussi dans ses pauvretés et dans ses limites. Et quand on sait un peu ce que c'est que la pauvreté, eh bien, c'est pas si simple. Parce qu'il faut rentrer dans la misère de l'autre, et c'est pas facile. Et ensuite, marcher avec l'autre, cheminer. Et donc, la compassion, c'est un des sommets de l'amour. C'est pas pleurer avec l'autre, c'est de rejoindre l'autre dans sa misère pour cheminer avec lui.
Geoffroy-Marie de Beaurepaire, dans votre livre intitulé « À la découverte de notre intériorité », vous citez la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. « L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Quelle place occupe l'Esprit Saint dans ce parcours dont vous parlez pour faire épanouir notre vie intérieure ?
L'Esprit Saint, c'est la vie. Le Christ est venu pour nous donner l'Esprit Saint. Je suis venu pour vous donner la vie en surabondance. L'Esprit Saint, c'est le dynamisme, c'est la vie même de Christ qui aime le Père. Et donc tout l'enjeu, c'est comment l'Esprit Saint peut travailler notre intériorité pour développer en nous ce qu'il y a de plus grand et de plus beau. Ayons de l'ambition envers nous-mêmes. L'Esprit Saint, il a de l'ambition. Il veut qu'on soit des saints. Et la sainteté, c'est pas la perfection. La sainteté, c'est la folie de l'amour. L'intériorité doit exploser par cet élan de l'amour. Alors, je proposerais justement pour cela une écologie de la vie intérieure. C'est très à la mode, l'écologie. On pense à nos poubelles, à différentes choses, mais la véritable écologie, c'est l'écologie peut-être de la personne, de la vie intérieure.
Alors, à quoi ça peut ressembler ? Parce que l'écologie, on a souvent envie de s'y mettre, mais c'est compliqué.
L'écologie, c'est revenir à la nature profonde de notre âme. Alors, cette piste, sept travaux pour justement nourrir notre âme afin de la purifier pour qu'elle soit resplendissante et qu'elle puisse allumer le feu de l'Esprit-Saint justement sur la terre. Première piste, c'est s'approprier son âme. On l'a évoqué à d'autres émissions, c'est pouvoir se retrouver soi-même dans la connaissance et dans l'amour de soi. J'y reviendrai pas. La deuxième piste, c'est se mettre à l'écoute de Dieu dans la prière. Et le cœur de la prière, dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est l'oraison. Je viens du prieuré de Troussure, où le père Caffarel a passé 30 ans. Il a eu cette idée, dans les années 1974, de fonder une école d'oraison.
L'oraison, c'est la prière.
L'oraison, c'est la prière silencieuse qui permet un cœur à cœur, une rencontre. Il y a mille manières de prier. Je peux louer le Seigneur, je peux aller à la messe, je peux réciter mon chapelet. Tout ça est excellent. Mais je reprends l'analogie de l'amour. Dans l'amour, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, pour rencontrer la personne de l'autre. L'oraison, c'est rentrer dans un silence intérieur pour accueillir le Christ vivant. C'est difficile à décrire, mais c'est une qualité de rencontre qui peut durer quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures. Et cela nous permet de nous nourrir de la présence du Christ. Et je crois que dans une vie chrétienne, c'est un passage obligé d'aller au cœur de la prière comme pour goûter Dieu, si j'ose dire. Alors, ça demande un apprentissage. Il y a des écoles de prière, il y a des écoles d'oraison, et ça, c'est l'autoroute pour la vie intérieure.
Ça, c'était le troisième point. Alors, vous continuez à nous dire comment parvenir à une intériorité par le biais de petits moyens. Quatrième moyen ?
Alors, c'est se mettre à l'écoute de Dieu dans sa parole. Marie gardait finalement la parole dans son cœur. Elle méditait dans son cœur. L'enjeu d'une vie chrétienne, c'est pas faire le vide en soi, comme dans le bouddhisme, avec le respect que je dois pour cette sagesse, mais c'est au contraire de se remplir de la présence. Et la lectio divina, c'est-à-dire le mûrissement de la parole de Dieu en nous, peut nous permettre d'habiter le Christ dans sa parole qui vient de l'Esprit. Cette parole dite il y a 2000 ans, elle est toujours actuelle, elle est pour l'aujourd'hui. Et donc, travailler sur une intelligence de la foi, approfondir la parole, oser se poser des questions, chercher, voir comment cette parole est vivante, me semble essentiel. Et j'irais même l'apprendre par cœur chaque jour, lire son évangile et se nourrir d'un verset.
Est-ce que vous diriez que c'est à la portée de tout chrétien qui a une curiosité, finalement, la lectio divina?
Il n'y a rien de plus simple que la lectio divina. Le royaume de Dieu appartient aux petits-enfants, pas d'abord aux théologiens. Mais les petits-enfants, ils aiment comprendre, ils aiment chercher, et je crois que l'homme est paresseux. On s'intéresse beaucoup à comment marche un smartphone, comment marche beaucoup de choses, mais pour découvrir la Bible, là, on devient très limité. C'est quand même très curieux. Je crois qu'il y a un enjeu très profond dans l'exo divina. L'autre point, c'est entrer dans un silence intérieur, c'est la garde du cœur. On l'a un peu évoqué, mais il me semble qu'il y a une vigilance à avoir dans nos passions, dans nos humeurs, dans tout ce qui peut troubler notre âme. On a à se préserver dans ce que l'on voit, dans ce que l'on entend. Et ce silence va permettre de préserver mon âme. Le cinquième point, c'est être en quête du bien et du vrai. Et du beau. Je crois beaucoup qu'on a besoin de beauté, on a besoin de vérité, on a besoin d'une qualité d'amour pour nourrir cette intériorité spirituelle que j'évoquais. Et la vie intérieure, c'est pas d'abord se préserver du mal, c'est d'abord se nourrir du bien. Quel est le bien de mon âme? Et là, nous avons à le chercher par des bonnes lectures, par des bonnes rencontres, par des bonnes philosophies, par des bonnes théologies qui vont me mener à l'essentiel.
Alors, on évoque avec vous, Père François de Beaurepaire, comment cultiver sa vie intérieure, comment développer son âme en quelque sorte, et vous nous partagiez quelques conseils. Comment être de plus en plus proche de ce que nous sommes?
On est dans un monde qu'on a évoqué avec beaucoup d'images, beaucoup de bruit, beaucoup de pubs, de marketing, d'érotisation. Et arriver à une sobriété nous permet de calmer nos passions, calmer notre imaginaire. Les distractions, le divertissement est bon pour un temps, mais si je me nourris que de ça, encore une fois, je vais être à l'extériorité de moi-même. La sobriété, c'est un style de vie qui veut me ramener à l'essentiel, à la nature profonde de mon âme, pouvoir goûter cette relation au réel, aux autres. C'est difficile parce que la consommation est toujours séduisante, le voyage est toujours sympathique, l'extériorité, encore une fois, est palpitant. Mais si j'ai pas cette sobriété intérieure, je risque de glisser très facilement et de quitter un peu mon âme intérieure. Donc, vous voyez, ce sont les valeurs de simplicité, de tempérance, de juste mesure et de détachement qu'il faut petit à petit acquérir.
Père Geoffroy-Marie de Beaurepaire, est-ce que vous diriez que c'est en quelque sorte retrouver un cœur d'enfant, ce que vous nous dites?
Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, le grand docteur de l'Église, le grand saint du XXe siècle, a montré la petite voie qui était celle de l'enfant. Mais comprenons bien, l'enfant est équivoque. Il ne s'agit pas du tout de revenir dans l'enfance, c'est ridicule. Au contraire, c'est de devenir adulte. Le royaume de Dieu appartient aux petits-enfants. Et le propre de l'enfant, c'est quoi? C'est qu'il fait confiance à l'adulte. Il s'appuie sur l'adulte. Faire confiance au Christ. Deuxième caractéristique de l'enfant, il veut être grand. L'enfant veut être grand, comme maman, comme papa. Est-ce qu'on a le désir? Est-ce qu'on a l'ambition d'être grand face à Dieu? Oui, soyons des petits-enfants pour être grands. Et nous avons un modèle quelle est la personne qui le plus nous a montré que le royaume de Dieu appartient aux petits enfants, que cette intériorité, finalement, elle est à notre portée? Eh bien, cette personne est une femme. Elle s'appelle la Vierge Marie.
Le lien entre la Vierge Marie et le chemin d'intériorité n'est pas forcément évident. Qu'est-ce que vous diriez que Marie peut nous apprendre justement sur notre vie intérieure, sur comment cultiver ce que nous avons de plus précieux?
Je prendrai les deux premiers mystères joyeux. L'Annonciation. Que se passe-t-il? Marie est une petite femme de 15-16 ans, juive. Elle a une intériorité psychologique, spirituelle, religieuse comme juive. Et voilà que le Christ vient s'engouffrer en elle. L'ange lui dit « Veux-tu être la mère de Dieu ?» Et le Verbe s'est fait chair grâce au fiat de Marie. Marie, dans son intériorité, a reçu la grâce. Et cette grâce l'a enveloppée complètement. Elle a d'abord conçu dans sa foi avant de concevoir dans sa chair, disent les pères de l'Église. Mais le propre de Marie, c'est de devenir mère de Dieu, et donc tout son corps, par sa maternité, était saisi par la grâce, par cette vie intérieure. Et quel est le premier fruit de la vie intérieure de Marie? C'est de se précipiter à Ein Carem, voir sa cousine Élisabeth. Il fallait au moins 4 jours à Todane pour y aller. C'était dangereux, en plus une femme enceinte. Bref, il y avait tous les éléments prudentiels pour rester à Nazareth. Pourquoi est-elle partie? Parce que le propre de la vie intérieure, c'est de se tourner vers le prochain. Elle a vu dans Élisabeth qu'elle devait l'aider. Et nous connaissons la suite. Quand elle arrive à Ein Carem et qu'elle voit sa cousine sent dans l'esprit que c'est la mère de son sauveur. Et Marie explose de joie par le Magnificat. La vie intérieure de Marie s'exprime, se manifeste par le Magnificat. Le Magnificat est le fruit de l'intériorité de Marie. C'est le sommet, si j'ose dire.
Merci infiniment, Père Geoffroy de Beaurepaire, d'avoir été avec nous toute cette semaine pour parler de la vie intérieure. Vous l'avez fait à travers un ouvrage qui s'appelle « À la découverte de notre intériorité, retraite à vivre chez soi » aux éditions des Clés de Brouwer. Et je rappelle que vous-même, vous appartenez à la communauté religieuse des Frères de Saint-Jean à Troussure qui accueille des retraites pour justement prendre du temps avec son âme. Merci à vous et à bientôt. L'émission Dialogue, c'est dans un instant, et c'est avec Montserrat Vidal.
L'empire du discrédit ou la sainteté de l'infamie, tel est le propos de Christian Salmon dans son essai intitulé « L'empire du discrédit » publié aux éditions Les liens qui libèrent.
La Bible nous parle, c'est votre rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir la Bible. Via des entrées thématiques comme l'amour, la mort, la vengeance ou le pardon, et autour de questions auxquelles nous sommes confrontés dans notre quotidien, cette émission recherche dans la Bible des éléments de réponse. La Bible nous parle, présentée par Madeleine Vatel, c'est ce dimanche à 14h.
Pour préparer Noël sous le signe de la fraternité, RCF vous propose son calendrier de l'Avent sonore, Aventure de Noël. Tout au long de la journée sur l'antenne de RCF, découvrez ces témoignages d'expérience personnelle de fraternité ou écoutez-les quand vous le souhaitez sur rcf.fr, l'application RCF et les principales plateformes de podcasts.